Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Louis Fine, votre émission de pop et de rock qui ne passe que des tubes tous les jeudis sur Fréquence Mistral 99.3. Et une émission que vous pouvez écouter et réécouter à l'envi sur le nouveau site internet de Fréquence Mistral, fréquencemistral.com. Alors au micro ce soir, c'est comme d'habitude Jeff et Seb, et à la technique c'est Antoine, que l'on remercie. Antoine qui supplée Damien que l'on salue. Alors entrons dans le vif du sujet avec une émission consacrée ce soir à la folie, une émission qui recevra un peu l'éclairage de David qui viendra nous rendre visite pour nous éclairer. Donc une émission consacrée à la folie et au fou dans le rock.
Et oui, psychose, névrose, troubles maniaco-dépressifs, bipolaire, la folie s'invite ce soir dans Louis Fine. Alors nous allons écouter de grands, très grands artistes atteints de différentes maladies mentales, atteints également à des degrés divers, certains alternant périodes de crise et périodes créatrices, et d'autres créant leur musique depuis leur maladie même. Ce qui posera bien sûr la question de base, sans doute sans réponse, mais quel lien entre musique et folie, entre leur musique et leur folie, entre leur créativité et leur maladie? Est-ce que la musique est un repoussoir de la folie ou est-ce que cette musique est un produit de cette folie? Voilà, on en parlera avec David, qui doit être dans les bouchons, je pense, ou en taxi, qui va arriver dans pas longtemps. En tout cas, on va partir ensemble pour une heure de musique en direct, donc, et on démarre le voyage avec un très grand Brian Wilson. I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin. Oh, the violence that occurred seemed like we never win. Love and mercy, that's what you need tonight. So, love and mercy to you and your friends tonight. I was lying in my room and the news came.
C'était notre petit quart d'heure Brian Wilson avec un titre Love and Mercy. Et voilà, Brian Wilson qui entame donc qui inaugure cette émission consacrée aux artistes, à la santé mentale.
La santé mentale des
plutôt
artistes.
Plutôt fragile.
Alors, on devait en parler ce soir avec Dr Martinez qui n'est toujours pas arrivé. Donc, tant pis, j'espère qu'il va nous rejoindre au cours de l'émission. Mais effectivement, Brian Wilson, c'était quand même un personnage plutôt bien senti pour cette émission, parce que donc c'est bien entendu le compositeur quasi unique du groupe des Beach Boys, un des créateurs aussi des plus grands succès des Beach Boys, chanteur, bassiste, producteur du groupe aussi, et également une personnalité assez fragile et qui a eu des hauts et des bas assez profonds. Il faut dire qu'il vient d'une famille quand même particulière. Il a eu un père alcoolique, Murray Wilson, chef d'entreprise prospère, mais également quelqu'un de très sévère. On peut même dire que c'était une brute sauvage, en fait, qui terrorisait ses enfants et leur infligeant des châtiments corporels et même des sévices mentaux, paraît-il. D'ailleurs, on dit même que si Brian Wilson est sourd d'une oreille, c'est que son père l'aurait jeté contre un mur, et depuis, il a perdu une oreille. Voilà, donc pas une ambiance très, très, très rigolote.
Mais à la fois un père qui a toujours poussé ses fils, parce qu'il y avait les deux frères, hein, Wilson, qui a toujours
à travailler
la musique, ouais. et à être bon en musique.
Oui, qui les a peut-être même un peu trop poussés. Bon, enfin, ça, après, c'est... En tout cas, Brian Wilson a pris cher, il a pris très très cher. Il s'est séparé petit à petit des Beach Boys, qui ont été repris maintenant par son cousin, Mike Love, parce que les Beach Boys, c'est une histoire de famille, évidemment. Il a eu une période plutôt difficile où il a été accompagné dans son traitement par un docteur. Un docteur Eugène Landy, qui était un psychiatre américain, qu'il a pris sous son aile et même sous sa coupe. Et voilà, avec des relations un peu troubles, voire un peu possessives et un peu compliquées, un peu complexes. David vient d'arriver.
Et oui, David fait son entrée triomphale.
Donc bonsoir. Bonsoir. On parlait donc de Brian Wilson. Et puis on parlait de ce moment où Brian Wilson a été pris en main par son psy, son médecin,
oui, c'est
qui,
vrai,
a,
oui.
qui a eu une emprise en fait assez importante sur lui.
Oui, alors c'est d'autant aussi troublant, c'est que Brian Wilson, il avait tout fait pour essayer de se libérer du joug de son père, qui avait aussi une emprise importante sur lui. Et il arrive une période de sa vie où, pouf, il tombe à nouveau sous l'emprise de quelqu'un, donc ce médecin là.
Ouais, et est-ce qu'on sait exactement de quoi il souffrait est-ce que c'est,
En fait, non. Enfin, en
fragilité
tout cas,
mentale.
On ne peut pas trop le dire parce que les diagnostics, on ne peut pas en donner. Mais il y avait, de toute façon une fragilité. Il était l'aîné d'une fratrie avec une responsabilité d'être celui qui écrivait les chansons, de celui qui était un peu le meneur du groupe. Et c'était le relais du père, quoi. Et il avait toute ce poids à porter. Mmh. Et à un moment donné, il s'est tourné aussi vers les drogues, peut-être pour essayer de supporter tout ça, quoi.
Les drogues et puis après les médicaments qui l'ont pas mal abruti aussi à une époque et qui ont un peu atténué sa créativité. Mais il a quand même toujours continué en fait à faire des albums. Il continue d'ailleurs. Il y a un album qui est prévu là en 2014, qui va faire avec Lana Del Rey, Kacey Musgrave et Zooey Deschanel, comme quoi sauvé par les femmes. C'est un album qui devrait sortir. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un film biographique, un film américain sur lui qui s'appelle Love and Mercy, comme la chanson qu'on a écoutée, et qui a eu un prix au Festival de Toronto.
À Toronto, en 2014.
Tu connais ce film ?
Oui, j'en ai entendu parler. Ouais.
Il n'est pas sorti, je crois, encore.
Non, il a été présenté à Toronto et il n'est pas encore sorti, en fait.
Voilà, donc ça va être une bonne occasion de revoir cette vie assez exceptionnelle.
Voilà, et on va continuer avec une autre artiste qui, elle aussi, connaît des hauts et des bas. C'est Cat Power, alias Sean Marshall. Cat Power, qui a sorti récemment son neuvième album, revenant du coup sur le devant de la scène.
Seul.
Voilà, un album Sun, d'ailleurs, qui évoque bien la lumière, le renouveau, l'espoir. Après une période, une grosse période de dépression, donc c'est... qui l'avait conduit, je crois, à une tentative de suicide et aussi un long séjour en hôpital psychiatrique.
Hôpital, oui.
Et puis peut-être que contrairement un peu, je trouve, à Brian Wilson, on entend peut-être dans la voix, en tout cas, dans la voix de Cat Power, parce que le love de Cat Power, c'est beaucoup basé sur sa voix. Hein. on entend peut-être cette émotion, enfin l'émotion, on perçoit un peu son chaos intérieur. Enfin, elle dit elle-même qu'elle est un peu inadaptée au monde.
Oui, quelquefois même sa voix. J'ai lu récemment qu'il y avait des suspicions d'utiliser l'autotune sur certains morceaux, justement parce que sa voix, elle commençait à la perdre à cause de ses troubles.
Voilà, et on l'a entendu récemment à Nîmes, c'était l'année dernière au festival This Is Not a Love Song, où c'est vrai qu'en live, on entend qu'il y a ce petit filet de voix et on sent une sorte de fragilité en tout cas. Quoi.
Mais c'est vrai aussi que ces albums, on a chaque fois l'impression qu'elle les fait un peu comme une manière de s'extraire de cette folie et de reprendre un peu les choses à zéro et de s'éloigner de cet état de malade. Quoi.
Mm. Ouais.
Et d'ailleurs, cet album Sun, toutes ses économies sont passées. Elle s'est retrouvée un peu dans une mouise au niveau financier. Mais en tout cas, c'est vraiment de la belle musique qu'on va écouter tout de suite avec le titre Nothing But Time, donc du dernier album de Cat Power.
Voilà, l'excellent, excellent morceau Panic in Babylon de The Brian Johnston Massacre, paru sur l'avant-dernier album, je crois, Auf Eben. Donc The Brian Johnston Massacre, un groupe de rock américain indépendant, farouchement indépendant, et conduit et fondé aussi par Anton Newcomb, le personnage qui nous intéresse ce soir, un personnage, on va dire, haut en couleur, sauvage, excessif, violent, qui a saboté de nombreux concerts.
Ouais, un personnage sans concession. Il est connu, voilà, pour pas faire de concession. On le voit dans le film Dig.
Alors, le film Dig, oui, qui est sorti il y a quelques années, qui parle de, qui le suit en concert.
Avec les Dandy Warhols. C'était deux groupes qui étaient deux groupes, comment dirais-je, frères, quoi, qui faisaient les concerts, ouais, ensemble.
De rock américain.
Voilà. Et lui, en fait, il y a eu un schisme parce que Anton Newcomb, qui est l'homme qui faisait pas de concessions, qui était brut de décoffrage, il supportait pas que Dandy Warhols il se prostitue, en fait, pour pouvoir
sur
devenir célèbre.
Sur commercial et de ouais, la FM. Ouais. Et on le voit, je crois, dans le film. Moi, je l'ai pas vu, le film. Je sais pas si toi, tu
l'as vu. Si, ouais, je l'ai vu. Ouais.
Apparemment, il sabote certains concerts.
Ah oui, il y a même une image de concert où il met un coup de tatane dans la tronche d'un gars du public et donc le concert est arrêté, quoi.
Voilà, donc il est connu pour des raisons, on va dire, une renommée aussi extra-musicale, mais il n'empêche que depuis quelques temps, il fait des albums absolument fantastiques, je trouve.
Et il habite à Berlin, c'est aussi, vraiment très ça bon. Commence à la calmer.
Voilà, on continue avec un personnage aussi vraiment oui, atypique.
Ben oui, atypique, singulier, c'est Daniel Johnston, le Californien, né en 1961, et un artiste complet, mais surtout voilà, une sorte d'ovni. Ça fait un moment que ça dure, hein. Ça va faire 30 ans maintenant qu'il est sur le devant de la scène, on va dire. Mais un artiste dont tu peux nous parler un peu, David.
Oui, ben, Daniel Johnston, c'est un artiste qui a, ouais, qui a une renommée qui l'a même dépassé, lui. Alors que c'était ce qu'il recherchait au départ, puisque c'est quelqu'un qui a commencé en fait à faire des cassettes chez lui, dans sa chambre, avec un mauvais clavier. D'ailleurs, je crois qu'on va l'entendre sur le titre qui va arriver, on entendra que c'est le clavier et c'est pas ça, quoi. Et il avait un tel besoin de se faire connaître, surtout de s'exprimer. C'était pas de se faire connaître, c'était de s'exprimer à travers sa musique, à travers les dessins qu'il faisait. Il a enregistré des morceaux, ensuite il faisait les dessins qui illustraient les pochettes des cassettes qu'il donnait aux gens dans la rue.
Il faisait toutes les pochettes à la main, quoi.
Voilà.
Et sur des thèmes souvent d'ailleurs de super-héros, avec des dessins un peu d'enfants. Hein,
Des dessins un peu enfantins avec des personnages qui ont été repris, oui, notamment par, on va en parler après, par Kurt Cobain de Nirvana, qui a porté des t-shirts avec les dessins de Daniel Johnston.
Son ami imaginaire, ouais.
Oui. Et donc, Daniel Johnston, il a même été comparé à un artiste d'art brut. L'art brut, en fait, c'est un art qui a souvent été fait par des gens qui étaient dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer et qui avaient un tel besoin d'expression artistique pour en fait...
L'art des fous, quoi.
Oui, pour se soigner. En fait, c'est une autothérapie. Et donc il créait des œuvres avec n'importe quoi, avec ce qu'il trouvait, les gens. C'était par exemple le dentifrice pour quelqu'un qui était hospitalisé, qui avait rien d'autre, qui avait pas de peinture, il peignait au dentifrice. Bon, après il y a des exemples un peu plus scatologiques de peinture, des choses comme ça. Et Daniel Johnston, c'est ça, ce besoin de créer faisait qu'il prenait les instruments qu'il avait sous la main.
Ultra productif et ouais, souvent très généreux aussi dans cet art, dans cette production.
Un petit côté obsessionnel, enfin, quand on voit l'énorme discographie de...
Ah oui.
Son énorme c'est discographie. Énorme. Donc on va écouter, pour se rendre compte un peu de ce que peut être un peu la version musicale de l'art brut, hein, la musique de Daniel Johnston, on va écouter un titre, Casper the Friendly Ghost.
The coyote goes.
He was smiling through his own personal hell. Dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close and then he fell. Now he's Casper the Friendly Ghost. He was always polite to the people who tell him that he was nothing but a lazy bum, but goodbye to them, he had to go. Now he's Casper the Friendly Ghost. Nobody
treated him nice while he was alive. You can't buy no respect like the librarian said, but everybody respects the dead. They love the friendly ghosts. Forget what he learned us. We were mean to him, but he never burned us in. Love lives forever. Thank you, Casper, the friendly ghost. Thank you, Casper, the friendly ghost.
Casper the Friendly Ghost. Voilà. Donc c'est un titre qui a un sens dans la vie de Daniel Johnston. C'est en fait quand il a commencé à être célèbre, il revenait d'une remise de prix, je sais plus à quel endroit, et son père était pilote de l'aviation américaine, un ancien pilote, et il avait un petit avion, un Cessna. Et Daniel Johnston avait arrêté de prendre ses médicaments depuis quelque temps, et dans un moment de, on va dire, de délire, il se prenait pour Casper, le fantôme qui vole, que tout le monde connaît. Et donc, il a décidé d'enlever de couper le jus dans l'avion et d'enlever la clé. Et il a jeté la clé par la fenêtre. Et son père, heureusement, était un très bon pilote. Il a réussi à poser l'avion quand même. Donc, retour hôpital psychiatrique pour Daniel Johnston.
Retour aux médicaments. Donc on va continuer avec un autre qui, je pense, doit prendre des médicaments aussi. Zach Condon, le compositeur, musicien, chanteur, leader du groupe Beirut, très beau groupe américain. Alors on va écouter un morceau qui s'appelle Santa Fe. Santa Fe, c'est là où il est né d'ailleurs, qui est paru sur le troisième album du groupe. Alors je savais pas du tout qu'il était malade en fait, mais j'ai appris ça en faisant l'émission. Alors je sais pas exactement ce qu'il a, peut-être. Dépressif ou...
Moi, apparemment, ça serait... disons que voilà, il n'y avait pas de... C'était pas quelqu'un qui était connu comme malade, mais il a fait un burn-out, en fait. Les concerts, les tournées, tout ça, ont fait qu'à un moment...
La pression, voilà. Ça revient souvent, d'ailleurs, cette pression extérieure dans le monde du showbiz, puis de la musique, tout ça, qui parfois, pour certaines personnes un peu fragiles, peuvent un peu casser les personnages. Alors, je ne sais pas, du coup, il a arrêté ou...
Je sais pas.
J'ai eu très peu d'infos là-dessus.
Non, je pense qu'il est toujours, actif, mais peut-être qu'il est.
Par phase.
Voilà, il a des hauts et des bas.
Allez, on écoute tout de suite Santa Fe.
Too young, and what of my heart? This day.
voilà, vous êtes sur Fréquence Mistral, vous êtes sur Louis Fine et vous avez bien raison. Et ce soir, une émission consacrée à la folie, donc avec David, notre invité, avec qui nous discutons de ces compositeurs, chanteurs parfois fragiles, parfois détruits. Et là, nous allons avoir un exemple assez sidérant avec Syd Barrett.
Et oui, Syd Barrett, le membre fondateur de Pink Floyd, exclu du groupe par les autres membres en 68, juste après leur premier album The Piper at the Gates of Dawn. Exclu du groupe parce que voilà, les autres membres ne supportaient plus son comportement complètement instable. Et puis, qu'on a attribué à une surconsommation de LSD, mais il devait sûrement y avoir un terreau favorable. Et c'est lui qui a quasiment composé, écrit tout le premier album. Mm.
Et après, le seul d'ailleurs, je crois.
Le seul qu'il a fait avec Pink Floyd. Et puis après, donc, il a entamé une petite carrière solo. Et puis après,
Mais il avait été tellement meurtri par le fait d'avoir été évincé de Pink Floyd qu'il a commencé déjà à vivre comme un reclus, quoi. Et il a fini sa vie de toute manière comme ça, comme un reclus. Il a fait quelques sorties où il est, justement, on parlait tout à l'heure d'un épisode où il était retourné voir les Pink Floyd en studio.
À Abbey Road.
C'est ça, et David Gilmour et les autres ne l'avaient pas reconnu, quoi. Et Roger Waters, c'est toi qui disais, Sébastien s'était mis à pleurer parce qu'ils n'arrivaient pas à reconnaître ce Syd Barrett qu'ils avaient connu.
Chauve, bedonnant.
Voilà, alors que c'était celui qui était l'ange, quoi, dans ce groupe Pink Floyd. Il avait un visage d'ange, il était...
Et puis alors lui, dans sa musique, on entend la folie, enfin, clairement. Et on va écouter d'ailleurs le titre « Si Emily Play », une musique pleine de cassures, pleine de chaos, un peu à l'image de la personnalité de Syd Barrett.
Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play free games for play. See Emily play. Dark, Emily cries. Oh. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily.
C'était Pink Floyd avec Si Emily Play. Et on va continuer avec une grande figure du rock indépendant, mais aussi une figure de ce qu'est la folie, ce qu'est la maladie mentale dans le rock.
Ouais, on va continuer avec Kurt Cobain, comme tu dis, figure icône même du rock des années 90, qui a rejoint le panthéon morbide des artistes sacrifiés, peut-être trop fragiles pour un monde musical excessif, et son intense pression médiatique. Alors accro à l'héroïne, souffrant de troubles mentaux, mais pas vraiment déterminé.
Non, non, et puis c'est peut-être pas même une maladie mentale, c'est peut-être seulement voilà, le résultat de plein de choses, de plein de pressions qu'il a subies.
Plein de petites choses qui ont pu le... Par exemple, on voit que dans sa vie, il a eu des parents qui ont divorcé, chose pas très grave, mais paraît-il qu'il est devenu, du jour au lendemain, il est passé de petit garçon joyeux, extraverti, à un enfant triste et solitaire.
Oui, c'est ça, avec un ami imaginaire, Boda. À qui justement sur sa lettre d'adieu lorsqu'il s'est
adresse
suicidé
à... ouais.
Voilà, il fait référence à Boda, il envoie, donc c'est quand même quelque chose qui résulte de, enfin qui revient de loin quoi, de l'enfance.
Après il y a eu sa relation avec Courtney Love aussi, certains ont dit que c'était un peu la Yoko Ono et qu'elle l'avait attiré dans la folie, par l'héroïne aussi, alors je sais pas, ça c'est un peu, ça paraît, on n'a pas vraiment d'informations, surtout que c'est quand même Courtney Love qui a essayé de le sortir de ça à un moment donné après qu'ils aient eu leur enfant ensemble. Voilà, alors, il avait quand même, il était quand même assez fragile, il souffrait de bronchite chronique et puis il avait aussi des douleurs intenses à l'estomac qui lui faisaient terriblement mal en permanence et qui lui prenaient la tête pour de bon, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est parti dans la drogue.
Apparemment, oui, il s'auto-médiquait avec de l'héroïne. Enfin, après, on peut imaginer aussi que c'était peut-être quelquefois le manque d'héroïne qui pouvait lui donner ses douleurs et ses crampes d'estomac.
Aussi. Et alors, dans cette fameuse lettre d'adieu dont tu parles, là, David, il cite une chanson de Neil Young sur Hey My My, où il dit « It's better to burn out ». Than to fade away, mieux vaut brûler franchement que de s'éteindre à petit feu, que ouais. De s'étioler. Voilà, on écoute le morceau Serve the Servants.
Now I'm born alone. passing by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon. Sit down with due care, don't walk away in silence, don't walk away.
Joy Division avec le titre Atmosphère, un titre de 1980. La chanson que Peter Hook, le bassiste du groupe, considère comme la plus belle, la meilleure chanson de Joy Division.
Oui, et avec un chanteur qui s'appelait Ian Curtis, qui est devenu un peu une icône de la New Wave à l'époque. Quoi.
Et, toujours d'ailleurs.
Qui a lui aussi fini tragiquement. Un jour, il s'est pendu au beau matin chez lui.
Très jeune, je crois.
Très jeune, je ne sais plus, mais je crois qu'il avait eu déjà. Il avait eu un enfant, il avait 19 ans, il s'était marié très tôt. Il avait vécu toute sa vie en espérant faire de la musique. Un jour, il a rencontré Peter Hook et tout ça, qui lui ont proposé de faire de la musique. Il a commencé à écrire, il a commencé à devenir quelqu'un, quoi.
Juste avant de partir faire la tournée américaine, en fait.
Voilà,
la veille. Il
a pas supporté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Ian Curtis, il a été diagnostiqué comme épileptique. Il a fait des crises d'épilepsie même sur scène. Et,
la fameuse danse de la mouche.
Ouais, il avait un traitement très lourd.
Barbiturique, oui.
Il était tiraillé parce qu'en fait, il était obligé de donner de l'énergie sur scène avec un traitement très lourd qui l'empêchait justement, qui lui bouffait cette énergie. Alors quelquefois il compensait en buvant un peu d'alcool, mais l'alcool en même temps ça lui faisait faire des crises d'épilepsie. Et il avait cette vie, il a passé voilà cette période de sa vie tiraillée entre sa femme, entre la rencontre avec une journaliste belge avec qui il avait découvert l'amour, avec un travail aussi. Il travaillait pour le gouvernement anglais, voilà, dans un, il avait un boulot de bureau. En même temps, ça devenait une rockstar. Donc, c'est vrai que tout ça, il a eu du mal à le gérer. Et malheureusement, il a fini tragiquement.
Ouais, pendu, c'est vrai que c'est pas très rigolo. Et il y a trois beaux films là qui retracent tout à fait sa vie. Il y a le fameux Control d'Anton Corbijn, qui est sorti en 2007, un film magnifique. Il y a aussi un documentaire de Grant Gee qui s'appelle tout simplement Joy Division, qui est aussi magnifique. Et puis il y a 24 Hour Party People de Winterbottom, qui retrace un peu l'histoire du groupe et qui est aussi un très très beau film, pour en savoir un peu plus sur Ian Curtis.
Et Jeff, tu voulais absolument nous parler d'un artiste fabuleux qui souffre également dans sa tête, qui n'est pas tout seul dans sa tête.
De Sparklers,
eh oui.
Mark Linkous, enfin qui souffrait puisqu'il n'est plus avec nous depuis 4 ans. Il est décédé en 2010, il s'est tiré une balle dans la poitrine.
Et ça t'amuse.
À l'âge de 47 ans. Et voilà, il a fait 4 albums, tous édités chez le label Capitol d'ailleurs. 4 chefs-d'œuvre, enfin je trouve. Dont l'album It's a Wonderful Life, titre assez ironique d'ailleurs.
De 2001. Ouais. Magnifique album.
Magnifique album dont on va écouter un morceau. Un ami de Daniel Johnston aussi.
Alors oui, il a produit un album de Daniel Johnston. Il a fait aussi une reprise d'un morceau de Daniel Johnston. Je me souviens même plus du titre, mais on voit que Daniel Johnston, il plane un peu sur tous ces artistes. Hein. On parlait de Kurt Cobain qui portait ses t-shirts. On voit que Mark Linkous aussi avait une certaine affiliation avec Daniel Johnston.
Ouais, c'est le panthéon des fous, de brillants artistes. Alors, juste avant de décéder, sa famille a écrit un petit courrier. Ils ont dit que son voyage soit paisible, heureux et libre. Il y a un paradis et une étoile pour toi, en référence à une phrase justement d'une chanson qui s'appelle Hey Joe de Daniel Johnston. Voilà, alors on va écouter le titre tout de suite.
Gold Day.
Gold Day.
Good morning, my child. Stay with me a while. We not got any place to be. Won't you sit a spell with me? You've got diamonds for eyes. It's time for you to rise and evaporate in the sun. Sometimes it can weigh a ton.
Sparkle Horse avec le titre Gold Day. Alors voilà, on arrive au terme de cette émission, une émission on espère que ça n'a pas été trop lourd malgré le thème de ce soir, mais je pense nous avons traité ça avec une certaine légèreté, mais aussi un grand respect pour ces grands artistes qui nous livrent une musique fabuleuse. Alors on se dit, on se retrouvera, vous pouvez nous réécouter la semaine prochaine. On se retrouvera dans 2 semaines pour une nouvelle émission dont le thème n'est pas encore défini.
Pas tout à fait.
Nous en discuterons ensemble. On vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur internet, fréquencemistral.com, sur le nouveau site de la station, donc sur l'onglet de Digne. Et puis bien sûr, on remercie David pour son éclairage.
Merci à vous de m'avoir invité.
Oui, et puis on remercie surtout Antoine qui au pied levé a remplacé de façon assez extraordinaire Damien.
Va-t-on faire revenir Damien ?
Oui, voilà, je pense que là, Damien a du souci à se faire. Donc,
merci Charlotte aussi qui a fait quelques photos ce soir. Merci. Pour l'émission qu'on mettra sur le Facebook.
Merci à elle. Et puis on va se quitter en musique, comme d'habitude, avec un autre artiste.
Avec Passion Pete. Passion Pete et son leader, j'ai plus son nom, c'est un nom grec.
Michael Angelanos.
Voilà, qui est bipolaire. Et donc, écoutez une chanson extrêmement optimiste qui s'appelle I'll Be All Right.